Donc Sarah, tu nous appelles depuis là où vivait jusqu'à en mai 2024 Ali avec sa famille. Si je devais te laisser dresser un petit peu le portrait de Ali et de peut-être comment effectivement tu te mets en lien avec ce drame en fait et cette terrible injustice qui se joue actuellement.
Oui, alors d'abord, vraiment, je tenais à te remercier pour l'opportunité que tu nous offres de parler d'Ali et de la campagne donc du comité Libérer Ali qui s'est créé publiquement cet été. En fait, ce qui s'est passé à l'été 2024, c'est que nous, on était plusieurs à être membres de comités en soutien à la Palestine et des comités locaux comme vous avez la chance de les recevoir aujourd'hui à Toulouse. Et on a été contactés par des proches d'Ali qui nous ont en fait parlé de sa situation. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact avec lui, puis enfin avec sa famille, puis avec lui, et donc qu'on s'est saisi de cette affaire dont on va avoir l'opportunité de discuter aujourd'hui. Pour commencer, Ali, c'est qui? C'est un réfugié donc palestinien qui est né, qui a grandi dans le camp de réfugiés de Balata à côté de Naplouse en Cisjordanie. Donc comme énormément de familles, sa famille a été expulsée de force en 48 pendant la Nakba. Très
Juste,
tôt, il est...
j'ai envie juste
Pardon.
de réagir là-dessus, c'est de rappeler aussi aux auditrices, aux auditeurs, que ça suppose en fait que c'est une injustice qui est perpétrée depuis des générations. 75 ans, ça fait un certain nombre de générations, et donc c'est aussi héritier d'une souffrance qui est transgénérationnelle et qui ne cesse
Tout à
jamais.
fait.
Ça, voilà. Je te laisse poursuivre, excuse-moi.
Malheureusement, il a un parcours qui est commun à de nombreux Palestiniens et Palestiniennes, puisqu'il donc il est né, il grandit dans un camp de réfugiés. Très tôt, il est témoin de l'assassinat par les forces d'occupation de son petit frère, qui est alors âgé seulement de 8 ans. Il a ensuite plusieurs expériences d'incarcération, d'abord pour jet de pierre quand il est enfant, et là encore, quand il est adolescent, et là encore, c'est extrêmement commun que les adolescents palestiniens soient ciblés par ces accusations. Il fait de la prison pour ça, et ensuite il est de nouveau à trois reprises incarcéré, sans charge, sans inculpation, sans procès en fait, pendant plusieurs années également cumulées, et il est finalement expulsé en fait de la Palestine donc par l'État d'Israël qui le contraint à l'exil une nouvelle fois, alors même que sa famille est profondément marquée, comme tu l'as dit, de génération en génération par la Nakba, et il se retrouve en fait à s'installer en Europe et plus particulièrement en 2016, il s'installe en France et il y fait une demande de réfugié et une demande donc d'asile. Et en 2016, la France reconnaît son statut de réfugié. Et donc, pour préciser un petit peu, juridiquement, un réfugié est reconnu en tant que tel lorsque on arrive à prouver un critère central, c'est celui de la persécution. Il faut pouvoir démontrer qu'on est persécuté par l'État dans lequel on est, en l'occurrence l'État israélien, donc qui occupe le territoire sur lequel Ali naît et grandit. Et donc la France reconnaît ce statut de réfugié et donc le fait qu'Ali est bien persécuté par l'État d'Israël et à ce titre lui accorde sa protection et le droit donc de séjourner en France et d'essayer d'y reconstruire sa vie.
Et
Et donc
j'ajouterai, si je me permets
oui.
d'ajouter, et donc la protection totale vis-à-vis du persécuteur, à savoir
Tout à
Israël.
fait, tout à
Je
fait.
te laisse poursuivre.
Et ça, c'est les engagements que qu'ont pris la France et qu'ont pris les États européens au regard des conventions internationales sur le droit d'asile et sur la protection des réfugiés. Et donc Ali séjourne en France à ce titre-là depuis 2016. Et donc il y reconstruit sa vie, il y travaille, il fonde une famille, il a plusieurs enfants qui sont aujourd'hui encore assez jeunes. Et jusque-là, ils tentent de se reconstruire autant que possible en France. Ils ont des voisins, des amis, etc. Jusque mai 2024, donc mai de l'année dernière, où à la fin du mois de mai, tôt le matin, la police débarque dans le foyer familial, défonce la porte d'entrée, braque des armes lourdes sur Ali, sur sa compagne et sur leurs jeunes enfants, les réveille de cette manière, et en fait place en garde à vue Ali et sa compagne. Donc les enfants sont confiée en urgence à la voisine. Donc vous imaginez un petit peu le traumatisme que c'est pour des enfants aussi jeunes de subir une telle violence au réveil et de voir leurs parents menottés et embarqués de cette manière et être confiés aux voisins sans savoir ce qui va arriver.
J'ajoute que les gens qui sont venus donc faire cette interpellation violente étaient bien sûr armés, bien sûr bottés et également cagoulés. Il y a quand même dans l'imaginaire aussi, on imagine des petits là, c'est vraiment les monstres quoi.
Ah, c'est absolument terrifiant et c'est traumatisant et ça a laissé des vraies séquelles sur ces enfants hein, qui mettent du temps à s'en remettre. Encore aujourd'hui, on arrive tout doucement à retrouver une forme de stabilité pour eux et pour elles, mais c'est extrêmement traumatisant.
Et on est en France,
on est en France. Et après quelques heures de garde à vue particulièrement éprouvante, donc la mère des enfants est relâchée. Mais par contre, Ali est placée en détention provisoire. Donc la détention provisoire, c'est quoi ? C'est une décision du juge qui vous met en prison en l'attente du procès. Donc pendant que l'enquête, l'instruction est menée sur vous et ce sur quoi on vous accuse, vous êtes placé en prison. Donc maintenant, ça va bientôt faire un an et demi. Qu'il est en détention provisoire. Et la seule chose, l'information qu'on a sur le motif donc de cette perquisition, de cette mise en garde à vue puis en détention provisoire, c'est des accusations qui sont portées par l'État d'Israël directement à l'encontre d'Ali et qui ont été transmises aux autorités judiciaires françaises.
On a l'impression que c'est de la science-fiction, cette histoire, en fait, quelque part. Hein. Parce que, justement, quand on a le statut de réfugié en France, du moins, hein, jusqu'à l'heure où on parle, là, au regard de tous les droits légaux, justement, on doit être protégé de toutes les persécutions possibles par l'État qu'on a fui. Or, ce que tu dis, c'est que les seules preuves, les accusations sont portées par, grosso merdo, le Mossad, enfin, c'est à peu près le Mossad, ça vient de l'État israélien, en fait, qui dit, cette personne, elle est pas bien, c'est ça.
Ça vient directement du persécuteur contre lequel la France s'est engagée à protéger Ali. Et c'est ça qui est absolument scandaleux, c'est que on se retrouve avec un État qui aujourd'hui est reconnu par quasiment toutes les instances internationales comme étant en train de commettre un génocide à Gaza. Aujourd'hui, on a prouvé qu'il y a un état d'apartheid en Palestine occupée, qu'il commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, etc. Et malgré tout ça, la justice française, donc l'État français, bien sûr, c'est éminemment politique, décide de considérer ces accusations, de leur accorder une sorte de légitimité, au point de venir réprimer une famille entière, traumatiser des enfants à leur réveil et enfermer, privé de liberté, un homme, un réfugié, depuis un an et demi. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi on a décidé en fait de lancer cette campagne publique pour appeler à la visibilisation de la situation à Ali et exiger sa libération immédiate et la relaxe en fait l'abandon de toutes les charges qui pèsent sur lui en France. Aujourd'hui, il est accusé, mais il n'est pas reconnu coupable. Le droit français normalement garantit sa présomption d'innocence jusqu'au procès. Exact. Mais la justice française aurait aussi pu faire le choix de le laisser chez lui, sous contrôle judiciaire, donc avec l'obligation de pointer ou quoi que ce soit pour s'assurer qu'il se rende disponible pour l'enquête. Mais non, elle a décidé de le mettre en prison. Donc ça, c'est aussi un choix politique très fort. Nous, ce qu'on constate, et c'est pour ça que la campagne aussi nous semblait nécessaire, c'est que à la fois le comité de soutien pour la libération d'Ali est absolument nécessaire pour Ali et pour sa famille, mais plus largement, on se rend compte aujourd'hui que l'État israélien franchit un nouveau cap dans la persécution des Palestiniens, puisqu'aujourd'hui il s'attache à persécuter, à poursuivre à travers les systèmes judiciaires de pays européens des réfugiés qui ne sont plus sur le territoire qu'il occupe actuellement. Et on voit qu'il y a des réfugiés palestiniens qui sont poursuivis en Italie, qu'on a Ali qui est poursuivi en France. On a eu ces dernières semaines plusieurs arrestations de réfugiés palestiniens en Belgique et qu'on se rend compte qu'en fait la diaspora palestinienne est elle aussi directement ciblée par les États européens qui se font le bras droit à travers travers le système judiciaire, d'une répression israélienne bien connue et bien rodée qui existe depuis la création de l'État d'Israël contre ses Palestiniens et ses Palestiniennes. Et ça, c'est extrêmement grave et c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'avec force, on veut que cette campagne, au-delà du cas individuel d'Ali, porte avec force l'idée qu'on n'acceptera pas que sur nos territoires, les systèmes judiciaires européens se fassent le relais des systèmes de judiciaires de répression des Palestiniens et des Palestiniennes en Palestine occupée. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ce recul et d'avoir cette analyse politique de l'évolution de cette persécution des Palestiniens et des Palestiniennes pour se rendre compte de ce qui se joue au-delà des situations individuelles qui déjà en soi sont extrêmement graves, mais plus largement, on a une forme de phase de test en fait de ces outils de répression et il est nécessaire de leur faire barrage avec force politiquement de façon à ce que on ne poursuive pas en ce sens. En fait, il faut se rendre compte, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, donc je vais peut-être prendre le temps de nous donner la possibilité de visualiser ce que ça peut être. Il est 7h du matin, vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de voilà, vos enfants dorment comme dans un foyer familial assez classique et en fait des hommes armés, cagoulés, habillés tout en noir, défoncent votre porte d'entrée avec une violence inouïe au point que vous ne pouvez plus la fermer, débarquent dans toutes les pièces de votre maison, braquent des armes sur tous les membres de la famille, enfants compris, plaquent au sol les adultes, les menottes, les embarquent et se mettent à retourner toutes les pièces de la maison, à fouiller les placards, à retourner tout ce qui peut se trouver dans la maison. Pareil sur la voiture, les vitres de la voiture sont cassées, les portes sont arrachées pour la fouiller, etc. Et donc dans cette tornade de violence extrêmement choquante, on embarque les parents sous les yeux des enfants et on les place en garde à vue et on appelle en urgence qui peut venir, en l'occurrence par chance la voisine, pour qu'elle récupère les enfants dans ce drame en fait familial qui se produit. Et là où je dis que c'est absolument important de se rappeler que c'est une décision politique d'avoir recours à cette perquisition, c'est qu'on pourrait tout à fait avoir recours à des convocations au commissariat comme c'est fait dans le cas d'autres affaires, mais que non, on décide massivement aujourd'hui d'avoir recours à la perquisition, d'avoir recours en fait à cette violence qui touche tout le foyer et pas uniquement la personne ciblée par la procédure judiciaire. Et donc la justice choisit en fait cet outil-là parmi d'autres et traumatise toute la famille, des enfants en bas âge, la mère des enfants qui en effet en garde à vue est menacée de perdre la garde de ses enfants, est menacée d'être elle-même poursuivie pour des motifs de financement du terrorisme, ce qui était faux, hein. Il n'y a aucune charge qui a été retenue contre elle, c'était purement de l'intimidation. Et donc toute cette violence-là s'abat sur la famille et ensuite les policiers partent et vous vous retrouvez avec une maison saccagée, une voiture qui ne peut plus rouler, une porte qui ne peut plus se fermer et votre conjoint, en l'occurrence Ali, qui est emmené et on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de communiquer. Du moment où la perquisition a lieu, il n'y a plus de communication possible. Et donc c'est seulement des jours après qu'on apprend qu'en fait il a été mis en garde à vue, qu'ensuite il a été envoyé dans telle prison d'Île-de-France, etc. Donc c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement traumatisant. Et en effet, dans les semaines qui ont suivi, donc la mère des enfants a développé un cancer. On n'a pas aujourd'hui de la possibilité de dire avec certitude c'est à cause de la perquisition, mais on sait par de nombreuses études que les sources de stress majeures génèrent ce type de maladie. Et c'est aussi ce que les médecins lui ont dit. En fait, lorsqu'ils ont procédé à l'interrogatoire au moment du diagnostic, ils lui ont demandé si elle avait subi des sources de stress majeures ces derniers temps. Et évidemment, elle a répondu oui. Et puis à ce moment-là, elle avait perdu le sommeil. Elle se réveillait en sursaut. Enfin, imaginez que ça vous arrive une fois. On ne peut plus vivre de la même manière après avoir vécu un tel événement. Donc elle développe ce cancer dans ce contexte extrêmement stressant. Et évidemment, avec tous les traitements très lourds et très invalidants qui vont avec en termes de chimiothérapie, ce qui la rend vraiment, qui la met dans une situation de handicap très lourde au quotidien, alors même qu'elle se retrouve seule avec ses enfants en bas âge, puisque son conjoint est donc aussi celui qui subvenait aux besoins financiers de la famille est mis en prison. Et donc c'est une grande situation, c'est une situation de précarité financière très forte, plus une situation de santé très inquiétante. Et donc les enfants qui en plus ont vécu cette violence extrême se retrouvent à voir extrêmement malade leur maman, alors que leur maman est une force de la nature incroyable, elle déborde toujours d'énergie, etc. Donc ils sont témoins aussi de cette maladie grave. Et doivent avec tout ça continuer d'aller à l'école, continuer de trouver du sens à leur quotidien, alors même qu'ils ne comprennent pas en fait cette tornade d'événements qui s'abat sur eux. Aujourd'hui, ça fait un an et demi, ils commencent tout juste avec la rentrée à retrouver un semblant de sérénité, un semblant d'équilibre, un semblant d'intérêt dans leurs loisirs, etc. Mais ils sont passés et ils passent encore aujourd'hui par des épreuves très lourdes, puisque la santé de leur maman, c'est pas fini, hein. On sait que c'est des choses qui durent dans le temps et dont l'issue est incertaine, et que leur père est absent de leur vie, puisqu'aujourd'hui il est incarcéré depuis un an et demi.
Ce qui génère évidemment aussi force inquiétude sur qu'est-ce qu'il va devenir, Ali. Et voilà, donc si tu peux me parler également, donc autour de cette famille, il y a eu ce comité de soutien, comment il se met en place, si tu peux nous en raconter un petit peu, et quelles sont aujourd'hui les demandes essentielles et peut-être des rendez-vous, des modes d'action. Voilà.
Tout à fait. Alors, le comité de soutien, très vite, dès le début, avant même donc l'ouverture de la campagne publique, avait vraiment deux objectifs essentiels. Le premier objectif, c'était d'être un soutien très concret à Ali et à son incarcération, parce qu'il faut savoir que la vie carcérale, ça coûte cher. Il y a un certain nombre de choses en prison qui sont payantes. Il y a un certain nombre de vêtements qui sont nécessaires, puisque des couleurs, ils sont bannis, des vêtements, ils sont bannis. Donc, il faut pouvoir fournir les vêtements qui sont acceptés en prison à la personne et selon les saisons. Il y a un certain nombre de frais, que ce soit les frais de téléphone, les frais de nourriture, les frais de courrier, etc., qui demandent en fait d'envoyer de l'argent. Donc non seulement la personne ne peut plus travailler, mais en plus sa détention coûte de l'argent à son entourage. S'ajoute à ça des frais d'avocat extrêmement élevés, puisqu'on a plusieurs milliers d'euros de frais d'avocat, de l'avocat qui s'occupe de la défense d'Ali. Mais on a aussi une affaire qui risque d'aller en cassation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'avocat d'Ali attaque les accusations, ce qu'on appelle dans une procédure de nullité. Donc on veut faire reconnaître que ces accusations sont illégitimes puisqu'elles proviennent d'un État étranger et d'un État pour le coup génocidaire, et que donc on veut même pas discuter du fond des accusations, on veut faire reconnaître que toute la procédure est caduque. Et donc pour ça la première demande a été rejetée, donc on va devoir aller jusqu'en cassation. Là c'est des avocats spécialisés, donc c'est encore des milliers d'euros de frais d'avocat. Donc le comité a un besoin de soutien financier extrêmement fort, puisque les montants sont vraiment importants pour le coup. Dès le départ aussi, évidemment, il y a eu toute une solidarité qui s'est mise en place autour de la famille, autour des enfants et de leur bien-être. Donc ça qui essaye de se poursuivre jusqu'à présent. Aujourd'hui, quels sont les objectifs de la campagne publique du comité Libérer Ali ? Il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est d'exiger sa libération, et donc pour ça, de visibiliser sa situation. On a ouvert une pétition qui est toujours en cours, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux de la campagne, donc Instagram et Twitter, donc qui s'appelle Comité Libérer Ali, que vous pouvez retrouver donc sur ces deux réseaux-là, Instagram et Twitter.
Alors moi, je l'ai eu aussi sur le site change.org. Je l'ai signé là-dessus.
Tout à fait. Aussi. Ça, c'est le site de la pétition, tout à fait. Et le lien de la pétition se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là, le détail de la situation d'Ali, de sa situation juridique et des actions qui y sont menées. Donc, ça permet de suivre l'actualité de la campagne. On peut annoncer ici en avant-première, Toulouse saura avant tout le monde, qu'il y a une grande mobilisation qui va avoir lieu autour de la date du 17 octobre, parce que le deuxième objectif de la campagne, la deuxième demande forte, c'est une part sa libération et l'abandon des charges, et d'autre part, le maintien de son statut de réfugié en France, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui la Cour nationale du droit d'asile a retiré son statut de réfugié à Ali au motif des craintes pour la sécurité du pays qu'elle déduit en fait des accusations israéliennes contre lui. Et donc là aussi c'est absolument inacceptable, et donc le 17 octobre aura lieu une audience publique auprès de la, au niveau de la Cour nationale du droit d'asile, à laquelle on va appeler à assister et appeler à des mobilisations autour de cette date importante. Donc là encore, toute l'actualité de ces mobilisations seront présentées et partagées sur les réseaux sociaux donc de la campagne du comité Libéré Ali. Okay. Et encore une fois, cette campagne a vraiment pour objectif d'établir une forme de rapport de force en fait vis-à-vis des autorités judiciaires. On sait qu'évidemment elles sont l'objet de pressions politiques très fortes, que ce soit du gouvernement français ou des autorités israéliennes, qui font en sorte de les inciter à poursuivre en fait ces accusations, cette persécution judiciaire contre Ali et contre les Palestiniens et Palestiniennes en général. On le voit bien plus largement comment aussi on réprime les soutiens au Comité pour la Palestine aujourd'hui en France. Et donc l'idée, c'est de modifier ce rapport de force de façon à ce qu'il y ait une pression aussi citoyenne sur les autorités judiciaires et de façon à ce que cette décision judiciaire se prenne et se fasse en toute transparence et surtout en respect des engagements de la France sur la protection des réfugiés et sur le droit international de manière plus large. Et donc, dans cet objectif-là, on incite vraiment tout le monde à parler en fait de la situation d'Ali, à visibiliser sa situation et celle de sa famille, à en parler autour de vous, à interpeller vos élus, interpeller vos collectifs, vos représentants politiques, etc., de façon à ce qu'elle puisse massivement être portée. Et encore une fois, je le répète parce que c'est fondamental dès qu'il s'agit de comités de solidarité vis-à-vis de la répression, c'est qu'on a un besoin financier extrêmement fort puisqu'on a des frais de plusieurs milliers d'euros pour payer les avocats et des frais de plusieurs centaines d'euros chaque mois pour soutenir les besoins de la vie en détention d'Ali. Donc d'accord. Voilà pour ce qui est possible de faire aujourd'hui.
Donc on mettra aussi, tu m'enverras toutes les informations, on mettra ça dans le podcast de l'émission quand les gens voudront réécouter cette interview. Et
avec aussi, grand plaisir.
Donc il y a on peut agir en allant sur les réseaux sociaux, signer la pétition, également participer peu ou on s'en fiche. Hein, je veux dire même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut très bien, si on le souhaite, bien sûr, donner même voilà toute contribution est une aide. Donc un soutien actif et à la CNDA, donc la Cour nationale de droit d'asile, le 17 octobre, c'est à Paris que ça va se passer. Hein,
Exactement, c'est à Paris, mais il y aura probablement des appels à mobilisation dans plusieurs villes de France, puisque aujourd'hui la campagne est portée par des collectifs dans plusieurs villes de France, comme c'est le cas d'ailleurs de collectifs toulousains qui ont facilité cette mise en contact avec la radio aujourd'hui. Donc on aura sûrement des appels à mobilisation partout en France. Et si ce n'est pas dans votre ville, c'est toujours possible sur les réseaux, c'est toujours possible en interpellant vos élus, vos collectifs respectifs, les organisations dans lesquelles vous êtes. Donc il y a beaucoup à faire et tout le monde est la bienvenue, quelle que soit la manière de participer.